Raté. 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 Raté.
Bonsoir, c'est dimanche et c'est Rature dans son versant entretien ce soir. J'ai lu le dernier roman de Joyce Ormond qui s'appelle Le Témoin et je l'ai beaucoup aimé. J'ai parlé avec elle un petit peu autour de l'écriture de son livre, de son texte. Et voilà, c'est cette discussion que je partage avec vous ce soir, sachant que je l'ai faite à distance, pas en studio, et qu'il y a donc quelques petits accros sonores. J'espère que vous m'en excuserez et que ça ne gâchera pas votre écoute. Je vous souhaite une très bonne soirée.
Raté, raté, raté.
Bonjour, Joyce Ormond.
Bonjour.
Alors, c'est un roman, je ne sais pas comment on dit, en fait, peut-être tous les romans sont à tiroir, mais je voyais plus une boule à facettes, même s'il n'y a pas trop le côté festif. C'est que, en fait, il y a plein, je voyais plein de petits miroirs, quoi. Voilà, c'est ça, c'était cette idée-là, mais ce n'est pas trop disco, quoi, hein, quand même. On peut dire que Le Témoin, c'est l'histoire de Bart, qui est le témoin du titre, mais dont la figure se fond avec tous les témoins qu'on voit se succéder à la barre de ce palais de justice, à l'architecture et à la parole grandiloquente. Une sorte de succession de vies symbolisée, résumée, caricaturée par des langages, des paroles qui émanent de procès liés à des faits divers ou encore même de choses plus graves qui siège au cours d'assises, et puis des comparutions immédiates, enfin voilà, tout un tas de scènes comme ça, où on voit en fait aussi d'autres témoins de vie, et nous-mêmes, on est témoins, c'est pour ça que je parlais de facettes comme ça. Ça, c'est pour donner l'impression. Alors évidemment, ça parle de justice. C'est pour planter le décor, je ne sais pas si vous aimez bien dire autre chose.
Non, mais je pense que je rajouterai une facette à la boule, qui est que le témoin, c'est aussi l'écrivain, bien sûr, que ce qui m'intéressait, c'était voilà, que de travailler cette figure de l'écrivain comme témoin. Et donc, le témoin, je dirais que c'est aussi moi voilà, qui tente de témoigner de ce que j'ai vu quoi, à travers la figure de Bart. Mais j'aime bien l'idée de réfléchir à l'écrivain comme témoin. Mmh. Et c'est vrai que là-dessus, le pacte, il est assez clair. Bart est une espèce de projection idéale pour moi de non seulement de ma personne, je pourrais dire, mais de l'écrivain, c'est-à-dire de la place de l'écrivain. Pour moi, Bart, c'est une sorte d'idéal de l'écrivain et d'incarnation idéale des vertus de l'écriture.
Alors, ça tombe bien qu'on commence par là, parce que je voulais commencer avec un premier point qui serait Bart, même si c'est un peu ridicule puisqu'il est partout, mais je voulais éclaircir un petit peu comment on entre dans le roman, en tout simplement en partant de l'incipit, quoi, du début. Sur le parvis du palais de justice cinglé par un vent de nord-est, la frêle silhouette de Bart se fond dans le gris minéral de la dalle, le gris bitumé d'un ciel bas. Bart lui-même a la mine grisâtre, émergeant d'une veste croisée, un imperméable à la saignée du coude, une épaisse mallette en cuir à la main, de selles profondes et assoufflées, que les médecins de campagne trimballent dans les films et les romans. Il passe inaperçu au milieu des pigeons, bisettes. Il pourrait être l'un d'eux, oiseau des villes, ou un ramier, une palombe. Quand on devrait pourtant s'arrêter sur cette allure intempestive, cet homme, à l'air soigné, le petit crâne ovale planté de cheveux ramenés en arrière, qui se tient raide dans les bourrasques, s'attardant sur la vaste esplanade, indifférent à l'agitation. On entre et on sort du tribunal par brassée. On presse le pas, on relève son col, on file le nez au sol. On commence donc par une description. Il y a quelque chose, je ne sais pas si vous me contredirez, d'un peu presque naturaliste, ou enfin, je sais pas si c'est Zola ou Balzac, même un peu, plus une focalisation externe, et on voit ce personnage. On est en position de témoin, nous aussi, et avec tous nos jugements. Et moi, ce que j'adore dans votre écriture, c'est qu'en fait, avec cette description qui semble presque, je dirais pas cliché, mais enfin, je le dis quand même, non, c'est-à-dire, voilà, c'est un personnage qu'on imagine. En fait, c'est pas vous qui faites à la manière d'un cliché, mais nous, ça convoque nos clichés. C'est-à-dire que moi, forcément, hop, je le vois, bah, cette serviette, tout ça, et je vois quelqu'un de gris, j'ai déjà l'idée d'un pas un peu désuète du personnage, un peu fonctionnarial. Et en même temps, et c'est là où dans l'écriture c'est très subtil, il se fond dans la grisaille. Il est comparé à un pigeon, donc on va, enfin, quelque chose d'assez commun, mais en fait non, pas si commun, parce que ça pourrait être un pigeon ramier, un bisette, alors je sais pas si on dit bisette ou biset d'ailleurs, je connaissais pas ce mot, mais enfin, en fait voilà, quelqu'un qui paraît très banal ne l'est pas tant que ça, et puis surtout, il se tient raide dans les bourrasques, et là d'un coup, une dignité apparaît qu'on n'imagine pas du personnage, donc en fait, dans cette description, voilà, le pacte dont je parlais, c'est attention, je vais vous décrire quelque chose. Enfin, moi, ce que je sens là-dedans, c'est je vais vous décrire les choses. Ça va faire appel chez vous, lecteur, à des images que vous avez déjà en tête, mais je vais vous les twister un petit peu, quoi. Soyez attentifs. Est-ce que c'est ça l'idée ?
Oui, alors c'est vrai que le premier chapitre, il est assez singulier. En effet, d'abord, comme vous le dites, d'une certaine façon, il y a un classicisme dans ce premier chapitre. Il y a une écriture assez classique, il y a une mise en scène, comme vous l'avez très justement remarqué, assez classique. On est à la fois dans la description d'un personnage kafkaïen, on pourrait être aussi dans le début, comme vous le dites, d'un livre de Balzac, du Père Goriot, où on décrit la façade d'une maison, par exemple. Donc, il y a un classicisme, et je pense qu'il se ressent aussi dans l'écriture. Mais que je pense que je lâche après. Mon idée, c'était déjà d'avoir une scène, la seule où on est dehors. Parce que, en fait, après ce chapitre introductif, on est enfermé et Bart est enfermé dans le palais de justice. Et ça, là, c'est le dernier moment avant que Bart aille s'enfermer. Donc, on prend un peu le temps d'être avec Bart quelques minutes, justement dans le vent, dans les éléments, avec les pigeons des villes, les pigeons parisiens en l'occurrence, puisque c'est le palais de justice de Paris. Et c'est comme une espèce de respiration avant de rentrer dans le palais de justice. J'avais aussi envie de décrire ce bâtiment, parce que l'architecture n'est pas du tout anodine. Et puis j'avais envie je compare à un moment le bâtiment à un vaisseau spatial et Bart est comme une espèce de cosmonaute qui va embarquer pour un long voyage et je le prends juste avant. Et en effet, je voulais camper, comme vous le dites, une espèce de à la fois de d'étrangeté de ce personnage et en même temps qui fasse référence, comme je disais tout à l'heure, à des personnages tels que Kafka ou Melville, évidemment, le Bartleby de Melville, ont pu les imaginer, c'est-à-dire ces figures un peu grises, un peu passe-muraille, qui sont en fait des topos, en effet, de la littérature, des personnages de la littérature, qui sont très, très reconnaissables. Mais j'ai voulu aussi lui donner une étrangeté. Et l'étrangeté, c'est déjà d'abord d'avoir envie d'aller s'enfermer dans ce palais de justice. Donc en effet, ce premier chapitre, il a un régime un peu à part. Et pour rentrer d'ailleurs dans la cuisine du livre, le deuxième chapitre, qui est une espèce de flashback dans lequel on voit Bart quitter son appartement, et un chapitre que j'avais pas écrit au début et que mon éditrice m'a incité à écrire pour expliquer un peu le départ de Bart. Elle trouvait que c'était un peu trop mystérieux et elle voulait que je commence par ce chapitre et qu'en gros le début du livre ce soit Bart qui parte de chez lui. Et moi j'ai résisté à ça parce que je voulais vraiment cette espèce d'arrêt sur image au début que je trouvais beaucoup plus mystérieux, pour le coup moins classique dans la narration. Cette espèce d'image figée de cet homme, comme vous dites, debout dans le vent et qui s'apprête à vivre une aventure voilà, qu'on va découvrir au fur et à mesure avec lui.
Et ouais, ah, c'est marrant cette histoire. Parce que moi, je sais pas, quand on a le flashback après ce premier chapitre m'a au tout début un peu embêtée, parce que j'aimais bien le mystère. Et donc, le fait qu'on vienne m'expliquer. Mais après, ça reste quand même assez léger. Il reste mystérieux, ce personnage, de toute façon, même avec le chapitre où on voit un peu plus de son univers, je trouve. Mais au départ, je me suis dit, ah mince, c'est comme si on me donnait trop.
Ouais, bah écoutez, je suis d'accord avec vous. Ouais. Et c'est vrai que l'éditrice m'avait poussée même à être plus explicite, à en dire plus sur sa biographie, parce que dans mon projet initial, il n'avait pas de biographie, il n'avait pas d'histoire. Je voulais qu'il reste cette figure complètement opaque. Et l'éditrice, elle n'était pas d'accord. Elle disait, il faut que tu lui donnes un peu d'épaisseur, un peu de chair. Et donc, j'ai accepté, entre guillemets. Enfin, elle m'a pas forcé la main, évidemment. Non. Mais voilà, c'était une forme de négociation où j'ai fait cette scène de départ, mais j'ai essayé quand même de rester en surface et de ne pas donner trop d'informations. Ouais, donc, ça a été une négociation avec l'éditrice et une négociation avec mon propre récit. Et voilà. Et en tout cas, je ne voulais pas qu'on commence par cette scène. Ça, pour moi, c'était très clair.
Oui. Mais ça, je pense que c'était assez judicieux, parce que vraiment, cette entrée-là, je la trouve très belle, moi. Et on a tout de suite une piste, parce qu'on, dès la page 16, donc, on nous parle d'une vie expérimentale que va vivre ce personnage. Alors, est-ce qu'on, je sais pas jusqu'où on peut aller dans l'explicatif de ce qu'il va faire. Je peux dire, je l'ai dit au début de notre entretien, il va se plonger dans, il va assister en fait à des procès, quoi. Il va assister au palais de justice continuellement à tout un tas de jugements, de témoignages, etc. Est-ce qu'on peut dire comment il procède?
Oui, alors il procède de la manière dont moi j'ai procédé, puisque tous les procès auxquels assiste Barthes sont des procès auxquels moi j'ai assisté. Donc il n'y a aucune fiction hein, dans les procès, ce sont tous scrupuleusement exacts. Et donc, quand il pénètre dans ce palais de justice, et son idée, comme vous le rappelez, c'est de mener une vie expérimentale et une vie aussi aléatoire, c'est-à-dire qu'il est là, qu'il a tout son temps, il a toute la vie devant lui, il considère maintenant qu'il va habiter là, et il est là aussi pour déambuler, pour errer, pour se perdre d'une certaine façon. Et donc dans le hall du palais de justice, il y a ces grands panneaux lumineux qui chaque matin indiquent les séances du jour, et donc de manière un peu aléatoire, il va choisir une séance, une chambre, il va pousser la porte, aller s'asseoir. Il peut aussi quitter un procès pour aller en voir un autre. Voilà. L'idée, c'est à la fois de faire une espèce d'expérience certainement pas exhaustive, parce que ça c'est pas possible, mais la plus diverse possible, et en laissant aussi le hasard le prendre, c'est-à-dire en se rendant absolument disponible à ce qui arrive, à ce qu'il va voir et entendre. Et cette hyper disponibilité, c'est-à-dire que Barthes est celui qui arrive avec le moins de préjugés possible, une grande attention, une grande disponibilité, une grande patience. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais que Barthes, il a les vertus de l'écrivain en mieux, si je puis dire. C'est cette disponibilité, c'est cette patience, c'est cette attention, cette concentration, cette porosité au hasard, aux rencontres, à l'inattendu. Moi, je pense que ce sont des vertus cardinales de l'écriture, qui sont difficiles à avoir tout le temps. Hein. La patience, c'est difficile d'être tout le temps patient, d'être tout le temps attentif. Et puis moi, je n'ai pas sacrifié ma vie pour aller vivre caché dans un faux plafond du palais de justice, contrairement à Barthes. C'est aussi pour ça que Barthes est cette espèce de projection idéale de moi. Moi, je n'ai pas tout quitté pour vivre au palais de justice. Barthes quitte tout. Voilà, et c'est pour ça que c'est une de mes réponses quand on me dit « Mais pourquoi finalement, c'est pas toi qui parles, pourquoi c'est Barthes ?» Parce que Barthes, c'est moi en mieux, en fait. Moi qui pas qu'il sacrifierait tout à l'écriture, parce que je trouve que cette position sacrificielle romantique est ridicule, mais qui a cette endurance que je n'ai pas toujours.
Il y a quelque chose dans la narration, dès qu'on passe, et ça c'est beaucoup dès le début, c'est un personnage qui évolue, hein, même s'il reste dans ce même lieu, il y a une évolution de... On est vraiment dans sa pensée à plein d'endroits, et on voit sa pensée évoluer. Voilà. Et au tout départ, les moments où on passe dans sa tête, enfin, je ne sais pas comment le dire autrement, Il y a quelque chose d'apaisant. C'est drôle. Dans la narration change, par exemple, sur les moments de, il y a les moments de scène où on est plutôt dans le discours indirect des magistrats, des avocats, des accusés, etc. Et des moments où on revient vers lui, la narration, ce que vous dites de la patience, on la sent dans le rythme. Alors là, j'ai pas un exemple sous les yeux, mais peut-être ça viendra dans les autres lectures. Ça, c'est quelque chose de très fort. Et petit à petit, c'est pas que c'est moins, c'est-à-dire dans l'évolution qu'il a de son regard, il est pas plus énervé, mais il y a quelque chose qui est plus radical, quoi. Je sais pas comment dire, plus ferme, enfin plus voilà.
Ouais.
Alors, je voulais, parce qu'il y a quelque chose qui se tisse dans votre roman autour du trou. Bart, c'est quand même, d'ailleurs, je crois que l'expression n'a pas, c'est l'homme du trou.
Ouais.
Alors, vous l'avez dit, c'est parce que il choisit, d'ailleurs, c'est, je sais pas, il y a une poésie là-dedans immense. Il choisit de se cacher dans ce faux plafond, hein. Et puis voilà, c'est un motif qui revient, le trou. Alors, je voudrais qu'on en parle un peu, mais il y a plein d'endroits où il y fait référence au trou. Enfin, c'est pas le même ressort à chaque fois, évidemment. Mais là, en l'occurrence, il s'agit du passage qui est assez au début aussi du roman, hein, sur l'Indien du trou.
L'Indien du trou, ouais.
Les journaux avaient relayé sa disparition. Et Bart écoutait avec intérêt à la radio l'histoire de l'Indien du trou, dernier survivant du peuple indigène Tanaro, décimé par l'exploitation industrielle de l'Amazonie, mort après 26 ans d'errance et de solitude dans la jungle. Cet homme, isolé, dit « non contacté », avait été surnommé ainsi pour avoir creusé dans chacune des 53 huttes qu'il a édifiées et habitées tout au long de sa vie, un trou, de 2 ou 3 mètres de profondeur, une sorte de cache ou d'abri qui devait lui servir à se dissimuler autant qu'à épier, à se protéger lui et ses biens, peut-être à se recueillir. Bart devait à son tour devenir un homme du trou. Le temps était venu de se construire un terrier au palais de justice, de s'enfouir dans le bâtiment. Alors, je ne sais pas si vous, c'est une idée... Comment ça vient, l'idée de se dire, tiens, il va se planquer comme ça? Pourquoi c'est un motif qui revient? Alors moi, c'est un truc un peu... mais moi, tout de suite, le trou, ça me fait penser au traumatisme, enfin, c'est des trucs lacaniens, machin, là, je sais pas si... Parce que quand même, comme il y a un peu de... Je veux dire, des soubresauts de... j'ai l'impression de votre expérience avec ce que vous avez...
L'hôpital psychiatrique.
Ouais, voilà. Au travers des experts psychiatriques, etc. Et je me dis, est-ce qu'il y a ça? Mais il y a aussi parce que dans toutes ces histoires, de toute façon... alors, on va en parler après, mais la justice, elle est forcément... partial, il y a beaucoup de choses non dites, non racontées, il y a beaucoup de trous, quoi. Voilà, qu'est-ce que c'est pour vous cette image-là?
Alors, j'ai pas pensé à Lacan, même si depuis que j'ai écrit À la folie, donc mon précédent livre sur l'hôpital psychiatrique, chaque fois que je rencontre des psys, ils me disent que je suis lacanienne sans le savoir. Donc, apparemment, ça revient très souvent. On en parle très souvent de Lacan que je connais très très mal. Bon, il va falloir que je m'y mette sérieusement. En fait, cette histoire du trou, elle est venue par plusieurs biais. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs occurrences dans le livre. Il y a d'abord donc, cet Indien du trou au début du livre. Il y a une référence au film de Jean Becker qui s'appelle Le Trou, qui raconte une évasion de la prison de la santé, donc où les camarades de cellule creusent un trou pendant tout le film. Bart lui-même plusieurs fois compare sa cache à un trou, ou rêve justement d'un trou, il pourrait se lover, quelque chose d'accueillant. Le trou, c'est aussi une forme accueillante en fait pour Bart, c'est une espèce de alors là pour le coup de presque de ventre maternel, enfin il y a quelque chose de comme ça, de creux dans la terre, réconfortant, etc. Et puis le trou, ça faisait référence aussi pour moi au terrier, au texte de Kafka, qui est le dernier texte de Kafka inachevé, au moment de sa mort. Donc c'est aussi l'homme du terrier, donc il y a aussi une espèce de parenté entre le trou et le terrier. Mmh. Le trou, c'est aussi, à un moment Barthes le dit, le trou dans lequel il a le sentiment que tous les accusés vont tomber à la fin des procès. C'est cet espace vide, vous savez, entre la barre et l'estrade où se tiennent les juges, qui est un espace, qui est l'espace symbolique de la loi, et que Barthes, lui, tout de suite, au tout début du livre, ne voit pas comme un espace symbolique, mais plutôt dans lequel ils vont tous sombrer les uns après les autres. Donc, je voulais tourner autour de cette image du trou, à la fois comme un lieu accueillant, protecteur, mais aussi comme un lieu, en effet, menaçant, terrifiant. Et comme vous le dites, les trous, ce sont aussi les trous de la justice, ce sont les trous de la raison, au sens où la justice prétend incarner une rationalité, une raison. Et Barthes constate que cette rationalité, ben, elle est pleine de trous qui sont en fait des non-dits, des zones de refoulement, des zones d'aveuglement, des zones de mauvaise foi. Donc c'est aussi les trous dans le discours judiciaire, qui sont comme des trous noirs qu'on ne veut pas regarder, en particulier à part des affects, dans la manière dont on rend la justice. Les affects de vengeance, les affects de colère, tout ce qu'on met de côté pour nous faire croire que la justice est rationnelle. Donc il y a aussi ces trous-là. Voilà, donc on peut beaucoup délirer au bon sens du terme, en fait, autour à la fois du mot et de la figure. Et en fait, ça a commencé parce que moi, j'avais lu en effet cette histoire de l'Indien du trou que je trouvais tout à fait fascinante. Et vous savez, parfois, on lit comme ça des histoires et on se dit, ben ça, ce serait génial dans un livre, donc vous les notez dans des carnets et puis vous dites, un jour, j'en ferai quelque chose. Et là, je me suis dit, c'est le moment d'aller chercher ce récit, donc que j'ai placé au début du livre. Et puis, en fait, ça a activé le terme, l'image, a activé quelque chose qui, finalement, s'est déployé après, pendant l'écriture, qui n'était pas forcément prévu au début. Mais tout d'un coup, je me suis dit, cette histoire de trou, en fait, elle est très, très importante. C'est pas juste l'Indien du trou. Et puis, je l'ai déplié comme ça, mais c'est quelque chose qui est venu vraiment dans le fil de l'écriture. Et par exemple, le film de Jean Becker, Le Trou, je l'ai vu pendant que j'écrivais le livre, conseillé par une amie. Mais voilà, je l'ai pas vu pour le livre et je le connaissais pas avant. Et quand je le vois, ça résonne complètement. Enfin, vous voyez, c'est aussi, il y a une très amusante et très pertinente expression d'une autrice qui s'appelle Maëlys de Kerangal qui dit, quand on écrit un livre, on a un papier tue-mouche dans la tête. Voilà, ce papier tue-mouche thématique. Et donc, tout vient se coller sur cette bande collante. Et c'est vrai qu'on le constate quand on écrit un livre, les choses viennent se coller et puis vous les détachez, voilà. Et donc le trou était un de ces serpentins collants sur lesquels les mouches venaient se coller.
Mais ça fait sens pour le lecteur aussi parce que comme avec l'accumulation, il y a aussi une forme d'accumulation de toutes ces histoires humaines. Et qu'il y a un moment, bon, on va aborder ça ensuite, mais comme il y a ce déterminisme, et on étouffe un peu, enfin, et c'est aussi l'histoire du, on étouffe dans le déterminisme, hein, je veux dire, dans se dire, mais quelle est l'issue, quoi, quelle est l'issue? Et donc, les trous, c'est aussi des échappées, c'est aussi, on peut creuser, on peut, alors que ça peut paraître des enfermements, bah, pas forcément. D'ailleurs, Barthes, c'est là où il rêve aussi. Oui, c'est là où il dort, mais c'est là où il fait des rêves dans son trou. Donc, c'est aussi l'imaginaire, quoi.
Tout à fait.
Alors, justement, parce que je disais que toute la pensée de Barthes, nourrie par ses expériences de témoin, s'étoffe, se raffermit autour de cette idée, justement, de la justice, puisqu'il part, on a oublié de le dire, mais sa question de départ, c'est est-ce que la justice est juste? Et donc, c'est-à-dire, on peut penser que c'est une question naïve, hein, mais non, il y va vraiment de manière. On a l'impression qu'il y va vraiment de manière, la plus objective possible. Et donc, on va aborder ça, mais alors, je vais faire des pauses musicales, et là, donc, je vais introduire une chanson qui s'appelle I Fought the Law de Bobby Fuller Ford, qui a été reprise par les Clash. Parce que, justement, il y a cette idée quand même dans votre roman, dans Le Témoin, que la loi... Alors, la chanson dit « I fought the law », c'est « j'ai combattu la loi and the law won », et la loi a gagné.
Comme souvent.
Et puis c'est, voilà, et comme souvent, et c'est un peu ce qu'on constate dans le roman, donc ça me semblait à propos.
Vous êtes bien sur La Clé des Ondes 90.10 et c'est toujours l'entretien Rature avec Joyce Ormond autour de son dernier roman, Le Témoin.
Ça vous dit quelque chose ?
Ouais, j'avais déjà entendu.
Ouais, il y a la.
Elle est très bien et très à propos.
Exactement, parce que c'est vraiment. I needed money because I had none. Donc, pourquoi les gens se retrouvent ? Parce que c'est principalement des histoires comme ça. Hein, pourquoi les gens se retrouvent dans ce palais de justice ? C'est beaucoup de petits larcins, en fait, hein, auxquels on assiste. Et alors là, il y a une description de la justice. Vous l'avez dit tout à l'heure, dans l'espace, hein. D'abord, on rentre dans un lieu. Il y a beaucoup de descriptions de cet espace gigantesque, un peu impressionnant. Un peu. Et puis, un espace quand même. Alors, en fait, il y a une espèce de contradiction entre quelque chose de grandiose et quelque chose de tout à fait inconfortable pour le corps. Parce qu'il y a une grande présence du corps dans votre texte. Alors, des occurrences, il y en a plein. Alors, on parle de l'amenuisement des corps, de la nuque cassée. Hein. Ça, c'est un moment, c'est un huissier, je crois, qui a la nuque cassée. Enfin, c'est le corps de tout le monde. Hein. C'est le corps des gens qui sont accusés, le corps du juge, des avocats. Il y a à la fois aussi, vous donnez une grande attention aux vêtements, et c'est pas anodin, parce qu'il y a évidemment, il y a tout le décorum qui est lié au costume judiciaire, quoi, les manches bouffantes, je crois, il y a un moment dans ces occurrences-là, enfin, voilà, on voit tout ça, donc on voit la mise en scène. Et aussi, il y a des indices, pareil, comme souvent vous parlez des comment sont habillés les gens en dessous de leur robe. On parle souvent des avocats, je crois.
Les grosses baskets qui dépassent de la robe, voilà, qui disent, tatinées de l'avocat.
Oui, qui disent un peu de la, parce que tout compte en fait. Il y a le corps des magistrats, des avocats, il y a le corps des accusés, leur couleur aussi, leur appartenance, voilà, il y a tout. Et il y a aussi, puisque je suis un peu obsédée par les trucs qui reviennent, il y a un truc de... Il y a le banc. Le banc est partout. Et l'inconfort du banc, quoi, qui symbolise pas mal de choses. Parce que qui est sur le banc ? On parle du banc des accusés. Il y a l'expression, d'ailleurs, dans le roman. Mais il y a le banc où s'assoit à deux. Il y a le banc... Et à chaque fois, c'est pas quelque chose qui... Voilà, le banc, ça renvoie pas à un grand confort du corps, quoi. Je sais pas si... Voilà. Bon, là, j'ai fait un petit micmac sur... l'espace, les vêtements, les corps, mais tout ça, ça plante quelque chose de très fort. Déjà, nous, on voit très bien, même si... Enfin, disons que c'est un peu il y a une sensation de... Dès qu'on rentre dans une institution, quoi, on va dire même dans un grand hôtel de ville, dans un... Il y a toujours quelque chose d'un peu comme ça, raide, quoi. Comme un banc.
Tout à fait.
Et puis, en même temps, voilà, vient là-dedans des corps qui sont pas faits pour, en fait. Ou qui sont... Enfin, chacun joue son corps, quoi. Enfin, voilà, je sais pas si vous l'avez dit que... Enfin, donc, je peux le dire. C'est-à-dire, votre protocole, ça a été, de passer une journée par semaine pendant un an dans le palais de justice. Est-ce que cette raideur et cet aspect des corps, c'est quelque chose que vous aviez avant en tête, puisque c'est quand même très présent dans vos autres romans aussi, le corps, on voit que c'est un endroit qui est fertile pour vous dans l'écriture. Est-ce que tout de suite vous vous êtes dit que ça serait ça, ou c'est parce que c'était tellement évident en étant témoin justement de ces procès?
Bah alors d'abord, vous avez raison, le corps pour moi est une entrée depuis toujours, hein, depuis mon premier roman, ça fait 20 ans que j'écris, et j'entre quasiment dans tous les sujets par la question du corps, que ce soit le corps genré, que ce soit le corps animal, que ce soit le corps psychotique, que ce soit le corps du boucher, le corps de l'habitant dans son architecture, etc. Bon, l'entrée matérialiste, physique, sensorielle, elle est primordiale pour moi. Donc j'allais pas, et elle est, je dirais, instinctive en fait, immédiate. Donc de toute façon, j'allais pas rentrer autrement dans cette histoire. Après, il y a plusieurs choses. Bon, je pense que ma lecture de Foucault n'y est pas pour rien non plus. C'est que Foucault montre comment les institutions, en particulier l'institution judiciaire, est d'abord un dressage, un matage des corps au sens le plus physique du terme. Et c'est vrai que ce qu'on constate au palais de justice, et vous avez très justement rappelé que ce ne sont pas seulement les corps des accusés qui sont mis à mal, ce sont les corps de la magistrature, ce sont les corps des familles sur les bancs, des spectateurs, c'est le corps de Barthes, hein, qu'on voit se déliter petit à petit. Et donc la justice, c'est aussi ça, à un moment c'est bien de le prendre au ras du réel, si je puis dire, au ras des choses, et donc au ras du corps, qui est l'outil de notre sensibilité à partir duquel se forment nos idées, hein. Je m'inscris aussi dans une perspective spinoziste de ce point de vue-là, et la justice met d'abord les corps à l'épreuve. Alors d'abord le corps de l'accusé, qui souvent sort de garde à vue, je raconte un peu dans le livre, c'est-à-dire qu'il n'a pas dormi depuis 48 heures, il est sale, il n'a pas pu se laver, il n'a pas pu changer ses vêtements, il est hagard, il est terrorisé, il est épuisé, donc déjà c'est un corps friable qui arrive devant ces corps parés que sont ceux des juges dans leur robe, sur leur estrade, hein, puisqu'on est sur la scène d'un théâtre, donc en ce sens-là les corps sont très importants, puisque la justice est d'abord une scène de représentation, une scène de théâtre où chacun est à sa place, avec une scénographie, un parler particulier, etc. Donc il y a ces corps-là des accusés, qui sont aussi des corps prolétaires, hein, puisque l'écrasante majorité des prévenus sont issus des classes prolétaires. Il y a les corps des magistrats épuisés par ces heures d'audience, ces positions statiques assises dans lesquelles la réflexion se fait plus difficilement aussi, hein, parce que enfin en fait penser c'est aussi être en mouvement, et puis finalement on juge toujours assis. Je me disais, tiens, mais est-ce que si on jugeait en marchant, en se déplaçant, si le corps bougeait, est-ce que la pensée ne serait pas aussi plus agile? Donc il y a cette immobilité là et puis il y a en effet, ces bancs, qui sont très très importants, qui sont les bancs de l'attente administrative en général, comme vous le dites, dans toutes les institutions, toutes les administrations, on attend sur des bancs, parce qu'on attend, l'idée c'est quand même d'attendre, hein, quand on est dans une administration, et on attend toujours sur ces bancs inconfortables, qui signalent que on n'est pas là dans un lieu d'accueil, dans un lieu surtout où on doit rester, parce que ce qui m'intéressait et ce que je fais aussi régulièrement dans mon travail, c'est en fait de rester dans des endroits où on est censé faire que passer. Je l'ai fait, par exemple, quand j'ai écrit sur la gare du Nord, je l'ai fait à l'hôpital psychiatrique, et je le fais là, dans ce lieu où les gens ne font que passer. Moi, j'ai décidé de rester, Barthes a décidé de rester, et donc, ce sont des lieux qui ne sont pas faits, et c'est ce qu'on disait aussi beaucoup à l'hôpital, dans le fait que l'hôpital soit un lieu assez hostile, les soignants disaient aux patients, mais ça n'est pas un lieu de vie, c'est très important, ça n'est pas un lieu de vie, enfin, l'idée c'est que vous en sortiez le plus vite possible. Donc, il ne faut pas que ce soit confortable, il ne faut pas prendre ses aises, quoi. Et alors, après, je vois quelque chose presque d'un peu pervers aussi, quand même, au palais de justice. C'est bon, extrêmement raide. Alors, il se trouve qu'en plus, pour rentrer dans les détails personnels, mais qui, en fait, infuse l'écriture d'un livre, il se trouve que moi, j'ai des gros problèmes de dos. Donc, j'ai énormément souffert sur les bancs de ces salles d'audience. J'ai ressenti moi-même cette hostilité, cette difficulté pour le corps. Donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'elle irradie un peu dans le livre. Mais on voit les gens se tortillent, sont mal assis. C'est vraiment les bancs en plastique moulé. Voilà. Donc il y a quand même cette idée qu'on accueille les gens, mais seulement dans une certaine mesure, et qu'il faut le sentir passer, quoi. De toute façon, il faut le sentir passer. Mmh. Que si on est là, c'est quand même qu'il y a des raisons qui sont pas en notre faveur, a priori. Même quand on est, par exemple, la famille d'un prévenu, on est déjà un petit peu coupable d'être la famille ou les proches d'un prévenu, donc on sera mal assis également. Donc c'est cette question du corps, en effet, elle était centrale et elle est incarnée par ces bancs. Et c'est vrai que c'est un peu la première chose aussi que voit Barthes en entrant dans le palais de justice, et que moi j'avais vu, c'est ces bancs partout où les gens attendent, parce que c'est quand même cette histoire de l'attente, hein. Toutes les audiences commencent en retard, on passe son temps à attendre, enfin, et voilà. Et donc, il y a ces bancs très design, donc qui correspondent à ce désir esthétique de l'architecture de Renzo Piano. C'est très beau à regarder, mais pas du tout ergonomique.
Ouais. Et donc, ben voilà, ces bancs, ils servent aussi à assister. Alors, il y a les bancs, il y a aussi tout, alors très fort, tout un travail autour de la parole, des mots, qui souligne, ben, dans cette justice, tout corrobore à ce que finalement, au constat que fait Barthes d'une justice de classe, quoi. Clairement, là, on peut pas y échapper, quoi. C'est-à-dire, il y a quelque chose de très fort qu'on voit peu finalement, je trouve, enfin, aussi bien saisi, mais peut-être aussi le lieu s'y prête beaucoup, du mépris de celui qui parle mal, qui a pas la langue, qui sait, et il y a pas qu'une histoire de langue. Alors il y a déjà ne pas maîtriser la langue, donc avoir un traducteur, etc. Il y a plein de nuances. Il y a avoir un parler qui convient pas. Une langue qui respecte pas les codes de la cour. Je pense à cette jeune là, avec sa doudoune. Enfin, je la vois.
Oui, oui, oui.
Et il y a le parler plus fort, on vous comprend pas. Aussi l'agacement. Mmh. Celui qui n'ose pas parler, parce qu'il y a la prise de parole aussi. C'est encore autre chose que la langue elle-même. Il y a le vocabulaire utilisé, la compréhension des uns. Et on voit bien que, de toute façon, la compréhension ne doit aller que dans un sens. Et pas dans l'autre. Enfin, clairement, il y a un jeu de dominant-dominé là, via les mots, qui est très fort. Et d'ailleurs, vous dites, hein, page 205, il y a une expression contrer des mots par d'autres. C'est à tellement d'endroits, c'est tellement juste, parce que il n'y a pas qu'une manière. Il y a toutes les manières dont on est dominé, quand on est de la classe des dominés, quoi, par le manque de vocabulaire, la honte de soi, le niveau de voix aussi. Il y a des voix faibles, il y a les voix faibles. Il y a un moment où on voit très bien que rien que par le ton monotone et puis la faiblesse de sa voix, c'est déjà foutu pour lui. Enfin voilà, il y a plein d'occurrences de ça, donc le décorum, on voit le poids de la domination est très fort à chaque endroit. Et ça, Barthes ne peut pas y échapper et voit ça comme un système global en plus.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est justement le lien entre ce que vous dites et la question du corps. C'est-à-dire que la question du langage et la question du corps sont évidemment liées. Parce que ce qui m'intéressait aussi dans cette entrée par les corps, c'est de singulariser les prévenus. C'est-à-dire que, comme vous le dites, je décris beaucoup les corps, les couleurs de peau, les postures, les vêtements, les façons de se tenir, les façons d'articuler, etc. Parce que ce sont des corps parlants ou des corps mutiques, d'ailleurs. Mais voilà, les deux fonctionnent ensemble. Et c'est vrai que c'est là où la littérature a aussi sa grande vertu. C'est que la littérature singularise, la littérature individualise. La littérature parle de vie individuelle. Elle ne parle pas en général de la justice. Et donc, je voulais singulariser ces corps. Et en effet, en singularisant comparaison, c'est quand en faisant apparaître des vies singulières, je faisais aussi apparaître cette guerre des paroles, cette guerre des langages que je faisais déjà apparaître dans mon livre précédent sur la psychiatrie qui m'avait beaucoup intéressée aussi. Et là, à nouveau, on est dans une perspective assez foucaultienne sur la question du savoir, du pouvoir et de la langue dominante. Oui. Je mettais en scène la langue délirante, psychotique, face à la langue extrêmement figée, obscure du corps médical. Et là, à nouveau, je fais s'affronter cette langue du savoir, cette langue de l'entre-soi, du droit, et cette langue, comme vous dites, précaire, mal articulée, où on parle trop. On parle trop fort, on parle pas assez fort, et on n'a pas les bons mots, on n'a pas les codes, et on n'a pas les bons vêtements, et on coupe la parole alors qu'il faudrait pas. Donc, il y a cette communication, cette rencontre impossible entre les deux régimes de langue, avec au milieu, justement, la figure de l'avocat, qui est celui qui va prêter sa langue, une langue aussi maîtrisée, une langue bourgeoise comme celle des magistrats, à ceux qui n'ont rien et qui n'ont même pas les mots. Donc, il y a aussi cette... Ça m'intéressait de travailler aussi la figure de l'avocat comme celui qui prête sa parole, mais qui, du coup, la confisque aussi un peu. Donc, il y a plein d'endroits où la question de la langue est intéressante. Et, entre autres, comme vous le disiez tout à l'heure, la question du mépris de classe. Et c'est vrai que moi, j'ai été extrêmement frappée. Pour le coup, je m'y attendais pas à ce point-là. J'étais peut-être naïve. Mais j'ai été vraiment très heurtée par la façon dont le mépris de classe s'exprimer dans de l'ironie, des références qui ne peuvent pas être comprises par les prévenus, évidemment, qui n'ont pas la même culture, par des propos très cassants, enfin, de l'agressivité, des leçons de morale, enfin, tout ce qui sort du langage formel de la justice. Alors après, on peut expliquer en disant les juges sont à bout de nerfs, ils sont épuisés, donc ils sont maltraitants, sans doute, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Voilà, donc comme sur la question du corps, je pouvais prendre ce motif-là par plein de biais, mais c'est vrai que c'est le motif central, puisque comme je disais tout à l'heure, une audience, c'est une scène de théâtre où des gens parlent, où des langues s'affrontent, dans ce qui ne ressemble quasiment jamais à un dialogue.
Alors justement, j'ai lu un petit extrait où on voit ça à l'œuvre un peu, et puis surtout qui montre aussi le glissement qu'opère, enfin c'est Barthes qui fait cette opération de glissement entre l'institution judiciaire et une autre institution à laquelle il appartenait.
Je suis en France depuis 2018, mais j'ai pas de papier. J'ai quitté la Libye pendant la guerre sans mes papiers et j'ai pas fait les démarches en France pour en avoir, parce que c'est trop compliqué. Je suis mécanicien de formation, j'ai perdu mon travail avec le confinement. Je me suis enlisée dans le vol. Je demande pardon, c'est la dernière fois, je promets. Ses larmes agacent le juge. Vous êtes tous pareils. Vous dites toujours ça, qu'on vous ne reverra plus et on vous revoit. Vos promesses ne valent rien. Barthes se souvient d'une collègue mêmement exaspérée par ses demandeurs d'emploi qui promettaient, main sur le cœur, doigt pointé vers le ciel, que cette fois, ils ne quitteraient pas leur boulot, puis revenaient au bout de quelques mois. Parfois seulement quelques semaines. Barthes pensait à l'époque qu'à nombre d'entre eux, on avait certainement fait aussi des promesses qui ne seraient pas tenues. Des promesses de bonheur, de réussite et de stabilité. Et maintenant, il voit bien que ceux qui sont dans le box ne peuvent pas faire grand-chose de plus que promettre. Se plier au rituel des regrets et des engagements qui seront le plus souvent impossibles à tenir. Mais parfois honorés. Et si c'était le cas de celui-là qui plus jamais ne volera? Mais Barthes n'a pas le temps d'examiner l'hypothèse car l'audience est une course de relais. Le procureur vient de saisir le bâton pour accabler le prévenu. Son manque de sincérité. Monsieur change de discours quand il est au pied du mur, quand il est incarcéré, après avoir nié sans vergogne. Puis se lance dans un interminable monologue sur l'insécurité à Paris. Le vol sur les terrasses, ses portables qu'on ne peut plus laisser sur les tables de bistrot alors qu'on a bien le droit de se divertir après ces années difficiles de confinement et de pandémie. Sur les braves gens dont on trouble la tranquillité, une tranquillité enfin trouvée et tant méritée, sur le vivre ensemble mis à mal, sur l'ensauvagement et la barbarie, avant de demander 6 mois de prison pour que monsieur comprenne que la justice ne va pas le lâcher.
Oui, c'est vrai que à la fois je dis que à la fois je singularise et à la fois je fais voir, en effet, par des effets de répétition, un effet de masse, quoi. C'est comme les prévenus se succèdent, que ce sont toujours les mêmes profils, on a l'impression que ce sont toujours les mêmes histoires. Je raconte qu'ils défilent comme sur un tapis roulant dans une usine de montage, de démontage. Enfin, voilà, que cet effet répétitif fait que les singularités s'agrègent en une espèce de masse laborieuse, de masse prolétaire, comme vous disiez tout à l'heure, qui représente les dominés, et qu'on est face à des blocs. Et que cet affrontement de classe, c'est le bloc de la magistrature et face le bloc bourgeois, hein, comme on disait autrefois, le bloc bourgeois face au bloc prolétaire. Et c'est vrai que ce qui est frappant dans l'enceinte d'une salle d'audience, ce que je dis à un moment dans le livre, c'est que la lutte des classes, que certains croient être un concept désuet et dépassé, elle est vraiment mise sous les projecteurs, je dis mise à cru, mise à nu, elle est à l'os, elle vous éclate à la gueule et elle est indiscutable. Elle est absolument frontale. On est justement sur ce théâtre. Alors ça, c'est l'effet théâtral. Le théâtre, c'est le lieu justement de la catharsis, des représentations, d'une forme de mise en excès, des rapports de force. Et que sur cette petite scène du théâtre où on est en costume, où on est dans un espace-temps très réduit, où chacun joue son rôle, etc., cette lutte des classes, on ne peut pas détourner les yeux de sa mise en œuvre. C'est-à-dire qu'elle est vraiment sous un miroir grossissant, comme elle pourrait être mise en scène au théâtre, ou je sais pas, dans une pièce de Brecht. Et c'est en ce sens-là aussi que la justice nous apprend beaucoup et nous oblige à voir la vérité, en fait, de rapports de force et de rapports de violence qui, en dehors du palais de justice, dans le tout venant du quotidien social, est beaucoup plus dilué, alors se voit quand même, hein, mais voilà, se s'éparpille en différents lieux, différentes manières de se former, de s'exprimer, etc. Mais là, dans ce huis clos, elle est totalement indéniable.
Ça saisit quand même, c'est quand même... L'injustice, ça pique quand même. Hein, et on est piqué en tant que lecteur, heureusement, j'allais dire, comme Barthes d'ailleurs. Mais pas, il n'y a pas d'épanchement, quoi. Et par exemple, il y a des saillies comme... Je vais dire le début du paragraphe. La moue sceptique de la présidente du tribunal n'est pas encourageante. La peine sera hâtive et dure. La délinquance ordinaire se juge sans inquiétude sur les conséquences. Entre tirets, ils ne peuvent pas tomber plus bas. Et les déjà à terre n'ont rien à perdre. Les déjà à terre n'ont rien à perdre. Moi, ça m'a fait presque, ça me met les larmes, cette phrase. C'est vraiment fort, je trouve, parce que on voit très bien, on connaît l'expression quand on a. Je sais plus ce que c'est, when you've got nothing.
Quand je dois à terre.
Quand on n'a rien à perdre. Mais là, les déjà à terre n'ont rien à perdre. Waouh! Je trouve ça hyper puissant. Comme, en plus, ça fait. Je trouve qu'il y a un petit clin d'œil au Sandan. Je ne sais pas pourquoi ça m'a. Moi, ça m'a. C'est peut-être d'avoir une expression comme ça qui désignerait quelqu'un. Mais la saisie est plus tragique hein, pour moi que. Que comique, mais il y a quand même ce truc de dire, ouais, c'est ça, quand on assigne les gens, quoi, à quelque chose, et que les mots arrivent à les saisir comme ça, ça fait mal, quand même, ça fait mal. Mais après, ce qui est aussi dans le roman très fort, c'est que, et de la part de Barthes d'ailleurs, et d'ailleurs dans toute la manière dont vous organisez le récit, parce qu'il y a tous ces allers-retours, et on voit bien que c'est pas des méchants, quoi, les juges et les magistrats. C'est juste qu'ils font pas. On en est tous dans un système, quoi. Alors, ça, c'est vraiment ce que je vais un peu développer. Cette grande machine-là. D'ailleurs, à un moment, je ne vous l'ai pas dit, mais il y a plein de choses que je n'aurais pas dites, de toute façon. Mais on y a fait référence un petit peu. Il a une image, Barthes, à un moment où il voit direct les gens partir du tribunal à la prison, comme par des tuyaux, quoi. Ça m'a fait penser à Brésil, le film de Terry Gilliam, où il fait partie à l'effet, des trucs comme ça.
Exactement. Exactement.
Et voilà, donc on est tout. Et en fait, ce qui qui est très, je trouve, juste dans ce roman, c'est que cette notion-là de qui est responsable là-dedans. Qu'est-ce que... Est-ce que... Alors, il y a quelque chose de très très fort. C'est ça qui m'a le plus parlé dans votre roman, parce que moi, j'ai l'impression que dans ma vie, c'est ma question, c'est comment je fais, comment dire, pour ne pas me sentir... Évidemment qu'il existe ça parce que j'existe, enfin que tout est lié, quoi, que tout, et que donc on n'est pas exempt, personne n'est exempt de la cruauté du monde en fait. Il y a quelque chose comme ça de nos sorts liés ensemble qui est très beau et qui fait qu'ensuite Bart lui propose quelque chose.
Non, mais c'est... Je suis ravie que vous disiez ça, que vous parliez de ça. On doit avoir la même préoccupation. En effet, ce à quoi aboutit, alors pas tout, enfin, c'est pas la fin du livre, mais quand même ce à quoi aboutit le livre, la réflexion de Barthes et pour tout dire la mienne en fait, ce que la fréquentation de ces audiences a produit en moi et produit chez Barthes, c'est cette conviction que si dans le box des accusés il y a un coupable, en revanche, nous sommes collectivement responsables.
Exactement, ça c'est tellement...
Voilà, qu'il y a un coupable, mais qu'il y a une responsabilité collective, parce que, en effet, nous vivons en société, nous sommes tous liés par ces relations sociales, affectives, politiques, familiales, sexuelles, que sais-je, professionnelles, enfin, voilà, un individu est le fruit de tissus, de relations, de liens, est pris justement dans cet entre-là, qu'on appelle société, qu'on peut appeler communauté, qu'on peut appeler nation pour certains s'ils le veulent, j'en sais rien, mais en tout cas, nous sommes, l'individu n'existe pas d'une certaine façon, l'individu n'existe pas, alors pour... On peut prendre cette question philosophique et par plein de biais. L'individu n'existe pas parce que le libre arbitre n'existe pas, que nous sommes sans cesse traversés par des forces qui nous poussent à agir, à prendre des décisions, etc. Bon, ça, c'est un autre débat, on ne va pas rentrer dedans, mais l'individu n'existe pas aussi parce que l'isolement n'existe pas par quelques figures d'ermite, je sais pas, mais voilà, en tout cas tout ce qui arrive, alors peut-être pas dans le monde, mais en tout cas dans la société à laquelle nous appartenons, nous concerne. Et le racisme, le mépris de classe, toutes les formes de violence nous concernent, car nous participons tous à un monde qui produit ce genre d'affect, et pas seulement parce que nous votons, parce que les émotions, les sentiments qui nous traversent, en fait, infusent dans la société toute entière. Et c'était ce qui m'intéressait aussi, c'était de montrer que les affects ne sont pas seulement le fait d'individus, mais ils sont le fait d'institutions, et que la justice est traversée par des affects, et que c'est la grande supercherie politique, institutionnelle, c'est de croire que les institutions n'ont pas de sentiments. Or, les institutions, des sentiments, justement, comme je disais tout à l'heure, de vengeance, de colère, de peine, de rage. Et voilà, et donc ce à quoi aboutit Barthes, c'est cette certitude-là, que nous sommes tous concernés, et finalement l'objet aussi de cette immersion, c'est de se sentir enfin concerné par ce qu'on croyait ne pas nous concerner. Hein, on pense que les comparutions immédiates avec des hommes arabes qui maîtrisent à peine le français, ça ne nous concerne pas. Ça ne me concernerait pas, moi, blanche femme bourgeoise, parisienne. Or, ça me concerne puisque je participe à une société qui produit ces malheurs-là. Donc, je pense que pour moi, c'est vraiment l'aboutissement du livre. Et ce qui m'a intéressé, c'est que c'est l'aboutissement au sens où je ne suis pas du tout allée au palais de justice avec l'idée que je voulais démontrer ça ou dire ça. J'ai été affectée pendant un an par ce que j'ai vu, et être affectée, c'est permet de concevoir des idées et des points de vue, et c'est celui que j'ai conçu à partir de la manière dont j'ai été affectée.
D'ailleurs, alors il y a plusieurs fois nous, hein, j'en ai relevé deux, trois comme ça, qui surviennent, on ne sait pas trop comment, et à la fin, enfin vers la fin, mais ça dévoile pas la fin du roman. Donc je pense que je peux lire ce passage que je trouve très beau sur le nous. Et c'est parce qu'il ne croit plus à la responsabilité individuelle, parce que je est un leurre et que moi est incertain. Il lui préfère le nous, plus honnête, plus précis, que ouais. Barthes a le sentiment que la culpabilité de cette femme dédouane tous les autres. Le dédouane lui aussi, lui permet de s'extraire de la longue et complexe chaîne des causalités. Une femme responsable et tous les autres irresponsables, non coupables, non punissables, la communauté blanchie. Une femme paye pour nous. La réprouver est notre soulagement et notre acquittement. C'est vrai que c'est des mouvements, ça, qui sont tellement justes. Et je l'ai vraiment peu lu. Et...
Je pense que déjà, se sentir lié intellectuellement et affectivement, c'est déjà beaucoup. C'est-à-dire que Barthes, en effet, cette idée-là, il la conçoit à la suite du procès de ce qu'on appelle les revenantes. Ces femmes qui reviennent de Syrie, souvent avec leur mari, qui ont laissé leur mari djihadiste parce qu'il est mort ou parce qu'elles ont subi trop de mauvais traitements, parce qu'elles se sont rendues compte de la folie de l'affaire, et donc qui reviennent. Donc c'est le procès de cette revenante. Et c'est vrai qu'il y a le sentiment que cette revenante-là, elle va endosser pour la société tout entière cette grande question, la question du radicalisme religieux, la question de la haine de la France, la question de la violence, la question de la Syrie, du djihadisme, etc. Enfin, c'est une question qui agite le pays, en particulier depuis 2015, de manière extrêmement intense, voire hystérique. Et donc, cette femme, c'est de sa faute, c'est ses revenantes, là, c'est ses extrémistes, là, ses fanatiques. Et donc, moi, je n'en suis pas. Moi, je n'ai rien à voir avec ça. Et l'idée, c'est pas forcément de culpabiliser nos positions de confort, mais de se dire, si, en fait, j'ai à voir avec ça. J'ai à voir avec ça chaque jour, parce que cette femme, en plus, on raconte son récit de vie, qui a été violée enfant, maltraitée, qui voulait devenir infirmière, qui n'a pas pu le devenir parce qu'à l'examen, elle portait un foulard sur la tête. Donc, toute son existence déraille parce qu'elle vit dans un pays où on en veut aux femmes qui ont un foulard sur la tête. Donc, moi aussi, je vis dans ce pays-là et je ne fais rien pour qu'on arrête de stigmatiser. Alors, je ne pourrais pas faire quelque chose individuellement, mais je suis concernée. Évidemment que je suis concernée, que nous sommes tous concernés, d'abord par notre vote, mais aussi autrement. Et voilà, donc il ne s'agit pas de culpabiliser, mais il s'agit de dire, en fait, cette revenante, c'est mon problème. Même si ma vie est à l'opposé de la sienne, c'est mon problème. On vit, on est liés, quoi. On est lié. Je dirais, pour revenir en effet sur cette vie expérimentale, comme vous le dites, il fait une expérience dont il ne connaît pas l'issue. Puisque c'est ça l'idée, de faire une expérience, d'expérimenter. On expérimente parce qu'on veut inventer des nouvelles issues et des nouvelles manières de faire. Et donc, il va expérimenter et il va... Donc, on ne va pas raconter la fin du livre, mais en effet, Barthes trouve une issue. À cette expérimentation et qui est une issue à la question dont on vient de parler, la question de la culpabilité individuelle et la responsabilité collective. Comment est-ce que Jean, alors c'est une expression qui est centrale, et ça je peux la dire, comment je prends ma part, dans ces affaires judiciaires qui sont des affaires sociales, politiques, comment je prends ma part à la marche du monde, à la marche sociale, donc c'est ça la résolution de la fin. Alors c'est pas tant qu'il expérimente une solution, même si il a une manière de prendre sa part et il dit tout le monde devrait prendre sa part. Il y a une forme d'injonction à la fin du livre, on devrait tous prendre notre part. Mais en tout cas, c'est l'expérimentation qui le fait bouger intellectuellement, parce qu'il a été bouleversé finalement par ce qu'il a vécu, et comme vous le disiez justement au début de notre conversation, c'est qu'il se durcit aussi. Lui, il est ce personnage naïf, ouvert, il est comme cette place sensible sur laquelle viennent s'imprimer comme ça les histoires, petit à petit. La colère le gagne un peu, l'insatisfaction, la fatigue aussi, et il se tend, et il se durcit, et voilà, il faut sortir aussi, à un moment, il faut trouver une porte de sortie, et c'est la fin du livre.
Voilà, ça va être la fin de notre entretien aussi. Je vous remercie beaucoup pour votre temps, et puis, merci beaucoup pour ce livre, très chouette.
Merci à vous, et merci surtout pour votre lecture.